ce que ce Père a été pour toi. Et nous pouvons croire que ce qu'il a été pour toi, il veut l'être pour nous. Ce qu'il a fait pour toi, il veut le faire pour nous. Si nous acceptons de devenir, par toi, ses enfants d'adoption. Oh, que nous puissions comprendre cette position merveilleuse que nous avons en toi. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et toi, Seigneur Jésus, tu n'as pas honte de nous appeler tes frères. Seigneur, donne-nous de nous rendre compte que nous formons la famille de Dieu et que tu puisses toujours nous reconnaître comme des gens de ta parenté. C'est la grâce que nous te demandons ce matin et que tu nous révèles comment toi tu nous vois. Que nous en finissions de nous regarder devant nos propres miroirs et d'être découragés par tous les défauts que nous nous trouvons, et que nous apprenions de toi ce que toi tu vois en nous, et qu'aujourd'hui nous soyons réconfortés, et que nous soyons des sauvés qui ont la paix, et non pas des sauvés malheureux, des sauvés qui doutent. Accorde-nous cette grâce d'avoir non seulement le salut, mais la paix et la joie du salut. Parce que nous savons que tu nous aimes et que tu as tout fait pour qu'un jour nous te soyons absolument semblables. Que ton nom soit béni et que ton esprit se manifeste au milieu de nous en ouvrant nos yeux, nos cœurs, notre intelligence et en inclinant notre volonté pour que tu puisses faire de nous tout ce que tu désires et que nous trouvions dans ce qui te plaît notre bonheur. Amen. Eh bien, nous sommes au mercredi 23 juillet et nous poursuivons inlassablement notre thème qui donc est Dieu, nourrissant de plus en plus nos pensées dans ce riche terreau qu'est le cantique des cantiques. Pour ce matin, je vous avais demandé de lire, de préparer les 6 premiers versets, ou 7, du chapitre 4. Voici, tu es belle, mon ami. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux et pas une d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil écarlate. Et ta bouche est agréable. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour y suspendre des armures. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Tes deux seins sont comme de pharaons jumeaux d'une gazelle qui pèsent parmi les lys. Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mire et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Et en toi, il n'y a point de défaut. Encore une fois, c'est la parole de Dieu. Et nous voulons lui demander que nous soyons sanctifiés par cette parole. Je vous rappelle que l'histoire de l'âme humaine rachetée par le Seigneur est empennée de lui, se poursuit dans ce merveilleux livre que nous étudions à l'école de Jésus et selon les règles qu'il nous a prescrites et que nous vous rappellerons encore. Nous avons vu comment il nous a trouvés dans la saison d'hiver, alors que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, gisant sans vie dans le champ du monde. Lui nous a vus, il a eu compassion. Et sa parole a retenti, comme nous l'avons lu dans le chapitre 16 d'Ézéchiel, « Vie dans ton sang ». Il nous a pris alors dans ses bras. Il a couvert notre nudité. Il nous a fait croître dans la grâce et au temps des amours, comme nous le lisons dans le chapitre 16 d'Ézéchiel. Il nous a fait connaître sa divine étreinte. Nous fûmes alors qu'il entrait en alliance avec nous et que nous lui appartenions. C'était notre conversion. Lavé dans l'eau de sa parole, ointe d'huile ayant reçu l'esprit, revêtu de ses habits, nourri à sa table, orné de ses dons, il nous paraît de sa beauté. Et dans ses bras, nous nous pâmions d'amour. Le bien-aimé était entré dans l'hiver de notre vie. Ayant reçu de tels soins, en l'hiver de notre existence, nous ne savions pas qu'il existait une autre saison, le printemps des fiançailles, un temps de résurrection, de plénitude, de vie abondante, comme au fond Job dont nous avons parlé ce matin, il croyait qu'il avait tout. Puis, il ignorait qu'il aurait pu avoir le double. Et dans sa persévérance à notre égard, le Seigneur, après nous avoir donné la vie, voulait que nous la possédions en abondance au glorieux printemps de la résurrection qu'il nous appelait à connaître avec lui. Nous avons vu sa patience, sa douceur, la longue attente de son amour, alors qu'une certaine paresse spirituelle s'emparait de nous. Et soudain, nous avons pris conscience de son absence. Et durant les nuits, nous le cherchâmes en vain. Enfin, nous comprîmes qu'il était temps de nous lever de notre sommeil, de nous réveiller de notre torpeur, pour le rechercher plus intensément jusqu'à ce que nous l'ayons trouvée. Et ça me frappait la semaine du camp familial. Une femme de Dieu aussi remarquable que Déborah, à un moment donné, elle s'écrit « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah ». On a besoin d'être secoués nous-mêmes, de nous secouer nous-mêmes, parce qu'on a toujours cette tendance à nous assoupir, même que le Seigneur nous a vraiment employés. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, parce que nous nous sommes recouchés, et le Christ t'éclairera. Alors si nous nous couchons, il n'y a pas de différence extérieurement entre un mort et quelqu'un qui dort. Quand on est couché au milieu de cadavres, eh bien, il semble qu'on est tous morts. Mais qu'est-ce qui prouvera qu'on a la vie? C'est la parole. Hein? Quand tout à coup on appelle, ceux qui ont la vie se réveillent. Hein? Mais ceux qui sont morts, qui n'ont pas été ressuscités en Christ, ils continuent dans leur sommeil de la mort, en attendant d'entrer dans la seconde mort. Alors, louange au Seigneur, si nous nous sommes endormis, et que nous paraissons morts, quand nous entendons la parole a comme effet de nous réveiller. Il ne faut pas aller chercher le réveil ailleurs. Les vrais réveils qui sont de Dieu, ce sont toujours ces paroles qui les provoquent. Ce n'est pas un homme. C'est la parole de Dieu qui est prise à nouveau au sérieux, qui nous aiguillonne, qui nous pénètre plus qu'une épée à deux tranchants et qui nous permet de nous ressaisir. Donc, après l'avoir cherché en vain, nous comprenons que ce n'est pas en restant somnolent ou en rêvant qu'on est réveillé, ça vous est déjà arrivé, hein, que dans votre rêve, vous pensez être réveillé. On se lève de notre torpeur et on le recherche plus intensément jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. Alors, l'ayant saisi, nous comprenons que nous devons le conduire, lui, et non pas des doctrines, jusqu'à la maison de notre mère. Et c'est très frappant, lui qui avait jusque-là eu la direction de notre vie, c'est nous maintenant qui le prenons et qui le conduisons à la maison de notre mère. Après que lui nous ait conduits dans ses chambres et dans la salle du festin. Alors, dans la maison de notre mère, il put ensuite nous instruire, nous faire connaître le printemps de l'amour, après quoi il nous conduit au désert, pour poursuivre notre formation et nous faire remonter du désert, mais cette fois caché en lui. C'était notre sujet d'hier soir. Ce n'est plus nous qui sommes vus, mais lui, le roi de gloire, déjà sur son trône admirable. Nous pouvons déjà le contempler, couronné de gloire et d'honneur, élevé dans une gloire aussi haute que son abaissement a été grand, mais nous-mêmes, nous sommes en lui, et c'est cela que nous voudrions que tous aient pu comprendre, nous sommes en lui ressuscités et déjà enlevés. Notre enlèvement spirituel a déjà eu lieu. Nous sommes enlevés et nous nous trouvons assis dans les lieux célestes en Christ quant à notre position. au fond, tout ce qui s'est passé pour Jésus se reproduit en nous. Il a été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Il a été enseveli. Je suis enseveli avec lui dans les eaux du baptême. Mais comme il est sorti victorieux, je suis ressuscité en lui. Je commence une vie vraiment nouvelle. Mais le Seigneur est monté dans la gloire. Et alors, crucifié avec lui, identifié à lui dans sa mort, enseveli avec lui, maintenant qu'il a vaincu la mort, nous sommes ensemble montés là où il devait être reçu. Et dans Éphésiens, au chapitre 2, vous voyez que nous sommes ensemble avec lui, sur le trône, quant à notre position. De sorte que notre combat, il se mène de dessus le trône, contre toutes les puissances spirituelles de méchanceté, qui ne sont pas au-dessus de nous, si nous pensons à notre position au-dessus de nous, mais au-dessous de nous. Car Jésus est au-dessus de toutes les puissances spirituelles de méchanceté. De sorte que si nous sommes en lui, par la position qu'il a, nous sommes nous aussi au-dessus des puissants. De sorte que nous avons l'avantage, nous pouvons combattre de dessus le trône, parce que nous sommes en lui, au-dessus de toutes les puissances qu'il a déjà vaincues, et nous pouvons parler à Satan comme à un ennemi vaincu. Parce que nous avons la victoire en Jésus. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous devons vraiment comprendre quelle est notre position. Nous sommes, quant à notre position, dans les lieux célestes. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et au fond, ce qui a caractérisé les disciples le jour de la Pentecôte, le jour de l'ascension, c'est que quand ils l'ont vu partir, qu'est-ce qui est parti avec lui? Leur cœur. Jésus était leur trésor. Quand ils l'ont vu monter, leur cœur est parti avec lui. Et alors ils ne se bagarraient plus sur la terre. Parce que si vous les voyez avant l'ascension, ils se bagarraient tout le temps entre eux. Ils se jalousaient, ils voulaient savoir lequel était le plus grand, lequel avait le plus de dons, lequel aurait la première place. Mais maintenant qu'ils savent que le Seigneur est allé leur préparer une place, on peut leur prendre la place sur la terre, ils ont leur place dans le ciel. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est cela qui change complètement notre vie et nos relations avec nos frères. Vous voulez ma place, me prenez-la. J'en ai une dans le ciel. Mais pourtant, alors, comme nous avons un témoignage à rendre, et que physiquement nous ne sommes pas pris immédiatement à notre conversion, c'est notre cœur qui est enlevé, ce sont nos pensées qui ont été captivées par le Christ. Il nous a redonné à la terre par le baptême du Saint-Esprit, et il nous envoie sur cette terre comme les milices d'en haut. Notre patrie, elle est où? Dans le ciel. Notre citoyenneté, maintenant, elle est du ciel. Je suis né de la chair, et selon la chair, je suis né suisse. Selon la chair, vous êtes né québécois, vous êtes né russe, vous êtes né américain, n'est-ce pas? Ce que vous voudrez. C'est plus ça qui compte. Certes, nous bénissons Dieu pour ce que nous avons reçu dans notre patrimoine familial, mais au fond, ce n'est plus ça qui est important pour nous, c'est d'être né de nouveau. Et alors, vous voyez déjà, quand nous sommes nés de la chair, comment est-ce que nous sommes arrivés dans ce monde? Avec une petite chemise brodée, nous sommes entrés dans ce monde nus. Hein. Ce qui est né de la chair est chair. On est entrés tous nus. Moi, je ne sais pas s'il y a eu des exceptions. Peut-être que vous étiez un peu comme Ésaü. Ça, j'en sais rien. Couvert de poils. Peu importe. Mais enfin, c'était quand même nous. Quand on naît de la chair. Mais quand on est né de nouveau, on est né d'où ? D'en haut. Et nous sommes redonnés à la terre, mais pas à nu. Équipés par toute l'armure de Dieu. Il nous envoie ici-bas avec tout notre équipement. Parachuté du ciel. Pour établir une tête de pont. En attendant son retour, pour préparer sa venue, pour préparer son retour. Alors attention, entre chrétiens qui se réclament du Seigneur, même si vous faites partie d'une autre compagnie qui est marquée sur vos épaulettes, hein, ne vous mitraillez pas les uns les autres. Il y a des fantassins, il y a d'autres armes, mais tous ensemble, nous devons lutter contre un seul ennemi qui est le prince de ce monde, qui est Satan. Et souvenons-nous que notre PC, il est en haut, et recevons toutes nos directions d'en haut, et que tout soit coordonné selon son désir. Et ne nous faisons pas la guerre les uns les autres. Ce serait quelque chose de terrible. Et hélas, toute l'histoire de l'Église est parsemée de guerres entre frères. Nous avons un témoignage à porter et nous sommes revêtus pour ce témoignage de la puissance de Dieu. Nous sommes donc les hommes forts, pas forts quant à nous-mêmes, mais forts par lui, gardiens de son nom, porteurs de son palanquin, et c'est lui qui doit être vu par les filles de Sion. Oui, c'est à la montagne de Sion que nous sommes venus, à la cité du Dieu vivant, Hébreux 12, verset 22. Quoiqu'encore sur la terre, ayant à combattre les frayeurs de la nuit, nous savons que notre divin fiancé, déjà notre époux, dans la foi, car nous sommes sauvés en espérance, nous savons qu'il se souvient de ses fiançailles avec notre âme, au jour de la joie de son cœur, lorsqu'il mit le comble à son amour pour nous, en mourant, sur le bois maudit. Mais ce qui nous importe maintenant, que nous savons notre roi bien-aimé sur le trône du Père, nous ayant donné son esprit comme consolateur, ce qui nous importe, dis-je, c'est de savoir comment il nous voit des cieux en attendant l'été des noces. Parce que c'est une autre saison vers laquelle nous allons. Hiver, printemps, été. Puis il y aura aussi l'automne. L'automne des fruits. Mes amis, qu'est-ce qu'on attend maintenant ? Le discours du trône. C'est le discours du trône. C'est le roi qui va parler. Et qui va nous dire, de son trône, comment il nous voit. Avez-vous compris? Et alors, là, on va s'apercevoir de ce qu'est ce roi. Le discours du trône. Nous connaissons bien cela au Québec. Et au Canada. Ce discours, nous l'entendons donc dans ces versets du chapitre 4, que nous avions à lire et à méditer ce matin. Alors, qu'avez-vous trouvé dans votre lecture? Lecture que vous aurez faite, je veux le croire, les pieds déchaussés, le cœur et les oreilles circoncis pour recevoir et retenir à toujours la parole ou les paroles que l'époux a choisies pour exprimer l'admiration que lui inspire son épouse. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous admire? Ton nom est admirable. Mais pour lui aussi, quand il vous regarde, il a de l'admiration. Oh, vous allez vous gonfler. Non. Parce que qu'est-ce qu'il voit en vous? Sa beauté. Vous devenez un miroir sur la terre. Et si le miroir est bien tourné du côté du ciel, ce que le Seigneur voit en vous, c'est son image. Et le monde verra aussi l'image qui est en vous et qui est celle du Seigneur. Il vient se voir en sa beauté. Vous êtes sa beauté. Est-ce que vous l'avez déjà compris? Vous êtes sa beauté. Ce n'est pas qu'un époux terrestre qui peut dire à sa femme « ma beauté ». C'est notre époux céleste qui dit de chacune de nos âmes « ma beauté ». Comme nous dépassons toute notre médiocrité. Et c'est cela qui plaît au cœur de Dieu. Il regarde celle qui s'est fiancée à lui pour toujours, comme il le dit dans Osée, chapitre 2, il s'est fiancé avec justice et droit, bonté, miséricorde et fidélité. Osée 2, versets 19 à 20. Et alors, il y a de la joie dans les échanges des fiancés, qui ne sont pas encore pleinement réunis, mais il y a de la joie. Alors, je vous laisse la parole. Qu'avez-vous trouvé dans ce discours du trône? Qui va parler? Oui, assez fort, s'il te plaît.
Alors, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que je n'osais pas croire que Dieu pouvait nous voir avec autant de beauté. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il parlait du voile. Alors, j'ai pu comprendre que Dieu pouvait nous voir comme avant la chute, même lorsqu'il est venu sur la terre, comment le voile représentait la chute. Il pouvait nous aimer derrière ce voile-là. Et il y avait aussi la description, on voit que la description vient, c'est dit de loin. Toutes les choses qui sont là sont comme, le descripteur, il faut qu'ils tiennent de loin, parce que notre cou, évidemment, est ici comme tour, etc. Sauf la grenade, la forme de grenade, c'est la seule partie, disons, qui s'est dit de façon normale. Le descripteur peut être une position près de nous, et c'est la place de l'affection à la vie. Mmh. Alors même s'il est loin, il est dans les cieux, il est en même temps près. Et pour terminer, bien, il disait aussi que l'aube, qu'il est là jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres suivent. Il est à la montagne, c'est-à-dire de la mire et à la colline de l'encens. Alors je voyais un peu le Seigneur, Jésus la Pentecôte, quoi. Le Seigneur qui voyait de loin, qui était auprès du Père jusqu'à son retour, quoi.
Oui. Et ça t'a réconforté? N'est-ce pas? Oui. Vous savez, il y a plusieurs pensées qui peuvent vous venir quand vous voyez cela. Et comme je vous l'ai dit, ce livre du Cantique des Cantiques, suivant le temps où il sera lu et par les personnes qui le liront à diverses applications, et nous avons vu qu'il avait aussi des dimensions cosmiques, que c'était en quelque sorte aussi le mariage de Dieu avec toute la terre. Et alors il y a des images de la nouvelle terre qui nous se sont données. Pas seulement d'une femme, mais la terre est appelée épouser, la mariée, comme on le voit dans le livre du prophète Ésaïe. Parce qu'il y a séparation maintenant entre les cieux et la terre, ce qui ne devrait pas y avoir. Il y a eu, au fond, par la chute, un espèce de divorce entre le Créateur et la création. Et toute la création est en travail et soupir. Mais quand la glorieuse libération sera donnée par la manifestation des enfants de Dieu, la création sera délivrée de toute servitude et pourra jouir justement de cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Les cieux béniront la terre et la terre aux cieux répondra. Ce sera vraiment l'échelle de Jacob pour toute la terre, pour le monde entier, quand le Seigneur régnera. Une autre pensée.
Je comprends bien, mais ici au verset 9, quand le Seigneur dit « M'a ravi le cœur, ma sœur, quand on dit que le Seigneur a pas honte de nous appeler ses frères. »
Oui. Oui. Mais tu passes déjà à l'étude de ce soir. Mais ça fait rien, ma chère. Mais oui, mais t'as bien fait. Vous voyez que moi je reviens, toi tu avances, c'est tout. C'est ça qui est merveilleux dans les études que l'on peut faire sous la liberté de l'esprit. Mais oui. Mais c'est dans le contexte. Alors écoutez, moi je crois que, puisque le soleil revient, je vais aussi vous laisser méditer. Je vais continuer, et puis on reprendra quand même ce soir, et vous aurez revu ces textes. Je vais vous donner juste quelques petits jalons, pour que vous puissiez creuser, hein, et que ce soir vous ayez peut-être lu plusieurs choses qui... dans une première lecture, peut-être, ne vous était pas apparu dans ce que j'appelle le discours du trône. Le bien-aimé, dans ce discours, entretient donc l'épouse de sa beauté. Et il aime à le faire parce que chacun de ses traits. Et vous avez compté combien il y en avait? Toujours 7 de nouveau. Il s'arrête sur 7 traits de l'époux. Et tous ces traits sont les résultats de sa grâce. Car si vous avez quelque beauté, c'est à cause de sa grâce. Il vous a fait grâce. De sa plénitude, vous avez reçu grâce sur grâce. Grâce pour vos yeux. Grâce pour vos cheveux. Et puis vous pouvez continuer de multiplier ces grâces. Je demande à Dieu qu'il nous donne ce matin la révélation de ce que nous sommes pour lui. Est-ce que vous saisissez cela? Qu'est-ce que vous êtes pour lui? Vous croyez qu'il a payé de sa vie pour vous racheter et que vous n'êtes rien pour lui? Vous êtes tout pour lui. Et c'est cela dont vous devez prendre conscience. Vous ne serez plus de ces solitaires, de ces malheureux, de ces affamés d'amour. Parce que vous saurez que vous êtes tellement aimé. C'est quand même misérable qu'on ait toujours ce verset sur les lèvres. Pour les autres, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce n'est pas vrai que l'on se sent tant aimé. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Alors prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, tu dis que tu nous as tant aimé, puis moi, je ne suis pas conscient. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être conscient de cet immense amour que tu as pour moi? Il y a comme un mur, il y a comme un voile. Oh Seigneur, enlève ce voile. Le voile est déchiré. La chair de Jésus a été déchirée. Et maintenant vous pouvez avoir accès dans le ciel. Vous n'avez pas besoin d'assiéger le trône de la grâce. Le trône de la grâce, il est dans une ville ouverte. Le Seigneur est venu vous ouvrir le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Ça, vous pouvez être sûr que c'est vrai. Il est la vie. La vie véritable. Et je veux croire que vous connaissez maintenant la qualité de cette vie. Oui, que les paroles que vous avez lues ce matin restent à jamais dans vos cœurs et que vous puissiez vous dire qu'elles viennent d'une langue qui ne sait pas flatter. Comme Élihu le disait à Job, ma langue ne sait pas flatter. Ce qui est dit ici, c'est la vérité. Alors, cessons de nous regarder nous-mêmes et écoutons dans l'adoration ce qu'il dit de nous. Et je voudrais vous poser une question. Est-il possible que nous puissions être sauvés sans avoir encore la paix? Parce que nous restons encore étrangers aux pensées du cœur du bien-aimé à notre égard. Est-ce que c'est possible d'être sauvé et pourtant de ne pas avoir la vraie jouissance, de ne pas avoir la paix, parce que justement, nous restons encore étrangers aux pensées du cœur du bien-aimé à notre égard. On se demande s'il nous aime. Oui, c'est possible d'être sauvé et de ne pas avoir la paix. On va vous donner un exemple. Un exemple qui me frappe beaucoup. Et je me souviens d'avoir traité à Paris, il y a plusieurs années, cette histoire d'une femme qui entend parler que Jésus va passer dans sa ville. Elle souffre depuis 12 ans. D'un mal incurable, que les médecins n'ont pas détecté. Ça me fait penser à cela ce matin, avec Joanne. Vous savez, je trouve que c'est vraiment admirable, parce que tout s'enchaîne. Dans le témoignage de Joanne, il y avait des choses qui me rapportaient à cela. Les médecins, bien oui, ils sont qualifiés, mais ils ne savent pas tout, ils ne voient pas tout. Et ils ne peuvent pas tout. Elle avait dépensé tout son argent en médecine. Il n'y avait pas encore Medicare. Et alors, elle apprend que Jésus va passer. Mais il y a une foule incroyable qui suit Jésus. Parce que les foules, elles sont toujours prêtes à suivre quelqu'un de nouveau. Et qui leur parle autrement que tous ces gens religieux à longue figure. Jésus était doux et humble de cœur, et on osait l'approcher. Il était abordable, alors que dans la religion, on s'affuble de vêtements qui nous rende inabordable. Peut-être que l'on l'a compris au moment de Vatican II, et alors on a laissé bien des soutanes, et des longues robes, et des cornettes, et tout ce que vous voulez. Mais maintenant ça revient, parce que on pense que l'habit fait quand même un petit peu le moine. Alors qu'on sait bien que l'habit ne fait pas le moine. Mais vous voyez, comme nous avons besoin de revenir à l'Évangile et de nous nourrir de l'Évangile, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, étant abordable, alors que nous les chrétiens, souvent, nous sommes inabordables. Et cette femme se dit, mais comment est-ce que je pourrais le toucher? La foule le presse, mais elle a la foi que si seulement elle arrivait à toucher par derrière le vêtement du Seigneur, elle serait guérie. Si seulement je puis toucher. Alors, oubliant au fond qu'on ne doit pas bousculer le monde, elle, parce qu'elle veut le toucher, elle voit qu'un tas de gens le suivent, le pressent, le bousculent, mais sans foi, eh bien, elle s'avance, et puis, elle arrive à le toucher. Et instantanément, elle est guérie. Elle se sait guérie. Il est dit, elle connut en son corps qu'elle était guérie. C'est quelque chose dont elle est sûre. Son hémorragie a cessé. Elle qui se sentait faiblir, elle a été renouvelée. Elle a connu la puissance du Seigneur dans son corps. Mais le Seigneur s'est arrêté. Et dit, qui m'a touché? Alors Pierre, qui parle toujours le premier, lui dit, mais Seigneur, tu demandes qui t'a touché? Tout le monde te touche. Hein? Oui, tout le monde le touche. Tout le monde est baptisé. Alors tout le monde est sauvé? Non. C'est pas le baptême qui sauve. Alors, le Seigneur s'est arrêté et il dit, qui m'a touché? Et il promène ses regards sur toute la foule. Mais c'est un regard qui cherche l'âme qui lui a donné du bonheur. Parce que s'il y a une âme qui lui a donné du bonheur, c'est cette femme. C'était cela qu'il attendait. Quelqu'un qui le touche du contact de la foi. Lui était réjoui, il s'est arrêté, il a eu du bonheur. Il a senti qu'une puissance sortait de lui pour guérir cet être. Mais il voudrait la connaître. Et qu'est-ce qui arrive? La femme ne sait pas la joie qu'elle a donnée au Seigneur. Et vous lisez dans le chapitre 5 de Marc, quel est son état d'âme? Elle est angoissée, toute troublée et tremblante. Elle est pourtant guérie, mais elle est toute troublée maintenant et tremblante. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous illustre vraiment dans quelle situation on peut se trouver. On est guéri et puis pourtant, voilà, on est effrayé et tremblant. Elle ignore les pensées du cœur de Jésus à son égard. Vous comprenez maintenant? Comment vous devez lire ce chapitre 4, les pensées du roi? C'est un roi d'amour qui ne veut régner sur vous que par amour. Vous ne connaîtrez que son amour. Et quand elle se fait connaître, enfin, qu'elle tombe à ses pieds, que lui dit-il? J'aime tellement cette expression. Ma fille. Il n'y a rien de plus doux. Ma fille. À cet inconnu, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Maintenant, elle connaît ce que Jésus pense. Ce sont les violents et qui le ravissent. Je vous le demande, mes amis, est-ce que quelqu'un, est-ce qu'une âme ici, une âme que j'aime, serait dans cet état? Souvenez-vous de cette femme. Et puissiez-vous, avant que le camp se termine, entendre le Seigneur vous dire, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Cesse de te préoccuper de ton salut. Lui l'a accompli en dehors de toi. Écoute ce qu'il te dit, comment il te voit, et cesse de te regarder toi-même et de voir tous tes défauts, et cesse surtout de te comparer aux autres. Il peut nous parler maintenant sans crainte que nous nous attribuons à nous-mêmes quelque louange que ce soit. C'est ce que Dieu a fait en nous qui compte. Ce n'est pas ce que nous, nous nous sommes faits. Parce que toutes les religions, au fond, vous disent, vous demandent de faire, de faire, de faire, d'arriver à vous dépasser. Et puis vous êtes coulé. Mais le christianisme, ce n'est pas cela. Parce que si c'était la religion de faire, nous serions désespérés. C'est impossible. Mais c'est lui qui fera l'œuvre. De sorte qu'encore une fois, je le répète, abandonnez-vous, laissez-vous faire. Alors il peut nous parler maintenant sans crainte. Et qu'est-ce que nous avons à faire en ce moment? C'est d'écouter. Est-ce que vous avez écouté? Écoutez en silence. Au lieu de toujours parler du Seigneur, laissons-le nous parler. Nous voulons parler aux âmes du Seigneur, mais nous en parlons si mal. Et nous avons si peu expérimenté cette joie que nous lui donnons. Alors, cessons de parler. Laissons-le nous parler. Voici, tu es belle. Puis, ça lui suffit pas de le dire une fois. Il le dit deux fois dans un élan d'amour. Voici, tu es belle. Il parle à votre âme. Voici, tu es belle. Voici, tu es belle. Et après ces termes généraux, je l'ai déjà souligné, il y a sept traits particuliers qu'il a contemplés séparément, et sept est le chiffre qui suggère l'idée de quelque chose d'accompli, de parfait. Alors, sans entrer dans les détails, pour vous laisser vous-même sonder les Écritures, considérons seulement rapidement ce qu'il dit. Et nous comprendrons mieux ce que c'est que d'avoir dépouillé le vieil homme et d'avoir revêtu le nouvel homme. Parce que ce que le Seigneur voit là dans sa description, c'est pas votre vieil homme, c'est le nouvel homme, selon Colossiens chapitre 3 et Éphésiens chapitre 4 versets 22 et 24. À 24. Nous avons revêtu le nouvel homme qui est créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. C'est le portrait de la nouvelle création en Christ. Nous sommes vraiment, comme dit Pierre, participants de la nature divine. comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, et les très grandes promesses par lesquelles nous participons à la nature divine, eh bien oui, c'est une participation à la nature divine que nous trouvons là. Et comme le disait un des grands mystiques il y a 500 ans, allons nous voir en sa beauté. J'aime bien ça. Allons nous voir en sa beauté. C'est tout différent. Alors c'est le discours du roi d'amour. La souveraineté qu'il veut exercer sur nous est celle de l'amour. Et 9 fois, dans le Cantique des Cantiques, vous trouvez cette exclamation « Que tu es belle !» qui jaillit des lèvres du Seigneur. C'est vraiment le fruit de l'Esprit. Cet ensemble de toutes les grâces qui donne aux chrétiens une personnalité attrayante dans laquelle le monde reconnaît Christ. Et vous savez que dans ce fruit de l'Esprit, il y a 9 éléments. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la passion et la maîtrise de soi. Alors il y a les yeux, il y a les cheveux, il y a les dents, il y a les lèvres et la bouche. Il y a la joue, il y a le cou. Et figurez-vous qu'il y a les la bouche. Pourquoi ça vous choquerait? C'est Dieu qui nous a fait. Et il savait ce qu'il faisait. Et voyez-vous alors, dans la description qu'il fait, c'est un vrai peintre qui met sur sa palette toutes sortes de couleurs pour nous faire la description. C'est pourquoi je dis aussi qu'il y a une interprétation cosmique à tout cela. Sur la palette du bien-aimé, il y a les blanches et mouvantes colombes. Il y a les chèvres noires des montagnes de Galade, ces chèvres aux longs poils. Il y a les brebis qui remontent de l'abreuvoir. Il y a les fruits rouges de la Grenade. Il y a les hautes images de la cité, la tour de David, et puis il y a cette scène champêtre, les pharaons d'une gazelle. Alors vous allez méditer sur ces yeux, dont le voile n'en diminue pas l'éclat. À travers le voile, il voit l'éclat de ses yeux, comme des colombes. Alors, méditez sur la signification de la colombe, symbole de l'humilité, de la chasteté, de l'innocence, et aussi de l'attachement à son colombier. C'est ce qui caractérise la colombe. Et dès qu'on l'a lâchée, la colombe monte le plus haut possible, donne, cherche de son regard perçant son colombier et file en flèche vers son colombier. Quels sont nos regards? Oh mes amis, méditez, méditez, méditez. Où regardez-vous? Est-ce que vous regardez à votre colombier? Où est-il votre colombier? Votre maison, votre chez vous, pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Regardez les choses qui sont en haut. C'est là qu'est notre patrie. La colombe doit nous instruire. Tes yeux sont des colombes. Nous reviendrons là-dessus. Et Jésus a parlé de la colombe, simple comme une colombe. La lampe du corps, c'est l'œil, dit-il. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Les yeux, nos regards. Maintenant, les cheveux. Les cheveux. Ces chèvres, nous les voyons sur ces montagnes de Galate. Elles sont plusieurs, mais elles sont rassemblées, elles descendent, et il y a une unité merveilleuse. Ces boucles flottantes. Il y a profusion, il y a unité. Et la chevelure, qu'est-ce que c'est? Et quoi encore? La gloire de quoi? La gloire de la femme, c'est ça, chevelure. Bon, passons. On pourrait aussi se souvenir du Nazaréat, cette consécration au Seigneur. Mais alors vous allez dire, oui, ben, on peut peut-être encore comprendre ça, mais les dents. Vous ne vous montrez pas vos dents. Vous avez toujours le bec fermé. Pour qu'il parle des dents, le bien-aimé, qu'est-ce qu'il doit voir chez sa bien-aimée? Elle n'est pas là comme chez le dentiste. Mais qu'est-ce que vous devez faire quand vous montrez vos dents? J'espère bien que ce n'est pas pour mordre. Mais sourire! Dès qu'un quelqu'un sourit, il monte ses dents, mais d'une façon agréable. On voit ses dents. Il y a un sourire, n'est-ce pas? Donc elle est souriante, sa bien-aimée. Il la regarde, il y a accueil, il y a son sourire, il voit ses dents. Régularité, égalité, propreté, ça vient du lavoir. Dommage que bien souvent on n'ait pas su cela, parce qu'on n'aurait pas de dentier. Le Seigneur nous a fait des dents. Puis il ne voulait pas qu'elles aillent de n'importe quel côté, il voulait qu'elles soient comme des jumeaux. Égales, régulières. Et alors avec les dents, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sert à quoi, ces meules? À moudre, à manger. Parce que les vieillards, quand ils n'ont plus beaucoup de dents, c'est difficile de mâcher. Ils ne peuvent pas mâcher n'importe quoi. Tandis que si vous avez les dents en forme, vous pouvez manger. Et manger quoi? La parole. Le pain de vie. Le blé nouveau du pays. Se nourrir de la parole, la manger, parce qu'on a les dents. Puis tes lèvres et ta bouche. Il y a là une indication qui peut vous conduire dans votre méditation, le fil écarlate. Ça vous rappelle quoi le fil écarlate? Le fil de Rahab, qui a été sauvé par sa foi, et qui a mis un cordon écarlate. Puis une bouche agréable. C'est une conversation qui est édifiante. C'est cela l'homme nouveau. Nos lèvres, avec le fil écarlate, ça veut dire qu'elles ont été purifiées. les lèvres d'Ésaïe, quand il s'est trouvé dans la présence de Dieu, il a tout de suite compris qu'il était un homme aux lèvres impures. Et qu'il habitait au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et que ce qu'on entend de la bouche des hommes et des femmes, c'est quelque chose d'effroyable, au fond. Les conversations des hommes entre eux, de quoi parlent-ils quand ils sont seuls, pour se distraire, pour se détendre? Ils parlent des femmes. Puis les femmes entre elles, de quoi parlent-elles quand elles sont seules, puis qu'elles se font des confidences des hommes? Puis qu'est-ce qu'elles disent? C'est quelque chose de triste. Nous devrions avoir une autre conversation et une bouche agréable. La conversation du croyant. Les lèvres du croyant ne sont pas les lèvres de lépreux. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des lèvres de lépreux. Le Seigneur a purifié nos lèvres. La grâce est répandue sur tes lèvres. Puis maintenant, vous méditerez encore sur la joue, parce qu'on y reviendra ce soir. Cette joue qui ressemble à une grenade. Vous avez déjà vu des grenades. Vous ouvrez la grenade, c'est un mélange de grains rouges et blancs. Hein? Vous savez encore rougir? Vos joues. Tout à coup, il y a un peu de couleur sur vos joues. Mais non, aujourd'hui, on ne sait plus rougir. Moi, on ne sait plus rougir. On est provocant. Et on se glorifie de ce qui devrait être notre honte. C'est ce que dit l'Écriture. Mais quand on est né de nouveau, eh bien, on a un voile. Il y a une modestie, une timidité. On est prêt à rougir. À moins que vous vouliez vous mettre une couche de je ne sais trop quoi sur votre peau pour être bien vite fané et ridé. Ton cou. Ah, ce coup. Comme une tour. Et on dit, mais c'est quand même bizarre. Mais qu'est-ce qu'il était avant votre coup? Il était sous le joug. Hein? Sous le joug. Sous toute espèce de servitude, notre coup. Ou bien alors, il était raide, la nuque raide, vous la connaissez? On ne veut pas se laisser briser. On est des gens qui ont la nuque raide, mais c'est pas de ça. On a été brisé. Et une fois que notre cou a été brisé devant le Seigneur, alors, le Seigneur le relève et il en fait une tour. Une vraie tour solide et qui peut porter les boucliers par lesquels nous avons obtenu des victoires. Dans ce monde, plusieurs victoires, alors qu'avant nous étions toujours blessés, battus, les pavois, les boucliers des vaillants hommes. Puis alors on arrive aux deux saints. Mais pourquoi est-ce que ça nous choquerait? On va voir cette petite sœur qui n'a pas encore de saints. On espère qu'elle va se développer, hein, parce que s'il n'y a pas de sein, c'est qu'il y aurait quelque chose qui ne marche pas, il n'y aurait pas de développement. Mais qu'est-ce que c'est les seins? C'est ce qui va nourrir l'enfant. Et pourquoi est-ce qu'on en a fait des choses, des objets? Mais bien sûr que dans le mariage, eh bien, il l'est dit aussi, que ces seins pénibre, jour et nuit. Pourquoi baiserais-tu le sein d'une étrangère. Et c'est un verset qui peut nous garder de bien des chutes. Parce que des tentations, vous pouvez en avoir. Bien sûr. Et si vous voulez aussi une direction dans la vie conjugale, dans le mariage, bien souvenez-vous que, suivant ce que vous faites, eh bien, les pharaons, qu'est-ce qu'ils sont? Ça file. Alors ne brusquons rien. Mais ici, ces pharaons jumeaux d'une gazelle qui pèse parmi les listes, souvenez-vous qu'il est question d'Israël? Et qu'est-ce qui est arrivé dans le royaume d'Israël? Un schisme. Et alors, il y a eu la tribu de Juda d'un côté, et puis le royaume du nord, avec Samarie, de l'autre. Et on a toujours vu dans ces deux pharaons, dans ces seuls réunis, on a vu prophétiquement le royaume d'Israël rétabli, vivant dans la paix par le Seigneur. Je dis cela juste pour vous donner quelques jalons, mais maintenant, le Seigneur, après une telle description de sa bien-aimée, de ce qu'il voit, les saints, c'est le centre aussi de l'affection, des saints qui se développent. C'est aussi l'image d'un amour qui grandit de plus en plus pour le Seigneur. Pour qui seront vos saints? Pour des étrangers? Ou bien pour le Seigneur? Et le mariage, est-ce que vous le ferez avec n'importe qui ou dans le Seigneur? Il y a toute espèce d'application. Mais le Seigneur nous dit tout à coup... Mais jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens, et Jérusalem. Et il nous donne rendez-vous là. Il n'en peut plus d'amour. Il veut l'union. Et alors, il nous donne rendez-vous en nous disant encore une fois, tu es toute belle. Il n'y a pas en toi des défauts, viens. Est-ce que nous allons répondre? Nous verrons ce soir. Mais repassez ces choses. Et souvenez-vous que c'est le Seigneur qui vous parle de ce qu'il voit de beau en vous. Dieu notre Père, nous voulons te demander qu'encore une fois tu purifies, tu nous purifies. Et que nous puissions comprendre que nos corps t'appartiennent. Et que comme nous avons des sens dans notre corps, nous en avons aussi dans l'âme. Qu'aux cinq sens du corps correspondent aussi cinq sens de l'âme. Et que nous puissions être touchés par ton amour. Tu as voulu employer notre langage pour nous dire à quel point tu nous aimais. Et nous voulons t'en bénir et te demander que tu nous apprennes à lire ta parole. Non pas en ayant été aux écoles du monde qui profanent tout, mais qu'étant à l'école de Jésus, nous puissions comprendre ce que sont et ce que représentent toutes les parties de nos corps, de notre corps, qui t'appartiennent et qui doivent te servir. C'est la grâce que nous te demandons. Amen.